Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin. On va aujourd'hui rester dans les livres de fiction. Pour une fois, on ne va pas parler de livres consacrés au cinéma. Alors, on va aborder Baby Trap de Patrice Hersan, qui est paru dans la collection Carnage à Zone 52 Édition. Nos amis de Zone 52 Édition. On va parler des deux derniers opus en date de la collection Gore des Alpes, Les Folles de Morzine de Gabriel Bender et Hiroshimio, Mon Amour de Nicolas Millier. On abordera le thriller Paradise Island de Dominique Legrand, paru chez Moisson Noir. Et enfin, nous terminerons par un entretien justement avec l'auteur de Paradise Island, Dominique Legrand. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Grima et Philippe Battaglia pour leur aide sur cette émission. À mes côtés aujourd'hui pour parler bouquins, il y a dans ce studio Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, rédacteur en chef de Prime Cut, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG, et bien évidemment salut à toutes.
Je file à la mairie, je vais faire changer ton prénom pour un sale truc bien pourri.
Il fut un temps où régnait en maître une collection horrifique en France qui s'appelait la collection Gore. Et à sa manière, la collection Carnage, aux éditions Zone 52, perpétue la tradition de cette collection. Bon, il y a eu d'autres collections qui ont tenté de perpétuer la tradition de la collection Gore, mais disons que cette collection, là-bas, elle se tient bien, elle a un rythme de parution très très important. Et le dernier ouvrage paru dans cette collection, c'est Baby Trap de Patrice Hersan, qui est un livre un peu particulier, où à chaque chapitre, un gamin subit les pires tortures J'ai un peu l'impression que l'auteur a un compte à régler avec les mômes. Hein. Je sais pas, peut-être qu'il vient d'être papa et que la nuit, il n'arrive pas à dormir parce que son gamin l'empêche de dormir. Donc, du coup, il a écrit un bouquin où on tue plein de mômes. Voilà. Alors, c'est alterné avec des chapitres avec un flic inflexible, James Hendrix. Mais où vont-ils chercher tout ça? Non, mais il lui manque que la guitare à ce flic un peu rock'n'roll. Et il mène l'enquête. Et puis, cette enquête va le mener jusqu'à un dénouement... assez cauchemardesque, et j'ose le dire, un dénouement qui appelle une suite. Hein, parce que moi, à la fin du bouquin, j'ai envie de connaître la suite. Hein, ça, c'est clair. Alors, ça peut se terminer comme ça, hein, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une suite. Je pense que j'aimerais bien savoir ce qu'il advient de James Hendrix après ce final assez étonnant. Alors, c'est rythmé. Évidemment, c'est violent. C'est une collection carnage. Hein, c'est pas à mettre devant tous les yeux. C'est cruel. Et puis c'est assez drôle quand même, c'est assez marrant, faut dire les choses. Et Baby Trap, c'est un piège en fait dans lequel le lecteur prend beaucoup de plaisir à être supplicié quand même, il faut bien le dire, ce n'est pas du tout désagréable comme livre. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est pour lecteurs avertis bien sûr, mais bon, il faut se méfier, on croise de drôles de personnages dans ce livre. On croise en particulier un type qui s'appelle Mr. Diddle Low. Je ne vois pas du tout à qui on fait référence. Diddle Low, est-ce que ça vous dit quelque chose, Diddle Low? Voilà. Allez, Thomas, je te laisse enchaîner sur l'émanation de la collection Gore, mais cette fois-ci, de l'autre côté des Alpes.
Comme tu l'as dit, Gégé, nous allons aller de l'autre côté des Alpes. Nous allons aller en Suisse. Et non pas pour visiter les banques suisses et déposer ces sommes énormes que nous gagnons grâce à Culture Prohibée, mais pour retrouver, comme tu l'as dit, comme tu l'as sous-entendu, les sympathiques habitants des Alpes qui aiment s'étriper joyeusement au son des cloches des vaches qui pèsent tranquillement dans les Alpes. Et oui, vous l'avez compris, c'est le retour des éditions Gore des Alpes avec deux titres, Hiroshimio, Mon Amour de Nicolas Millier et Les Folles de Morzine de Gabriel Bender. Le premier, Hiroshimio, mon amour, hommage sans équivoque à Marguerite Duras et Alain René, il ne faut pas en douter, parle de, vous l'aurez deviné, de cancer ainsi que du droit à l'euthanasie, de décider de sa propre mort quand on se sait condamné. Seulement, pas de narration alambiquée ici, le roman se montre tout à fait linéaire et narre l'histoire de Gilbert, charpentier en retraite, qui décide de partir en Suisse pour abréger ses souffrances. Seulement, le médecin qui lui prescrit ce voyage en toute illégalité est en fait un sadique pro-vie qui se cache derrière des préceptes religieux pour faire maintenir en vie des malades en phase terminale en leur administrant divers traitements tous aussi douloureux les uns que les autres. Et oui, Jigsaw fait des émules dans la littérature française et le docteur Grandiot semble vouloir continuer son œuvre, les énigmes en moins, l'armoire à pharmacie en plus. Hiroshimio, mon amour, est donc du torture porn avec tout ce que le cinéma ne peut montrer, c'est-à-dire du sexe, dans le genre de ce qu'il y a de plus extrême. Cloué sur son lit d'hôpital au fin fond d'une sorte de bunker, Gilbert est emprisonné avec deux autres pensionnaires, tous deux aussi âgés que lui, et qui vont subir les sévices de Grandiot et de son sbire, un nain difforme tout aussi sadique. Faut-il préciser que cela gicle et saigne, que les chairs se déchirent, macèrent et pourrissent? Ajoutez à cela un peu de complotisme avec du Big Pharma, que n'aurait pas renié un fan du professeur Raoult, un zeste de nazisme et d'antisémitisme, et vous obtenez ce roman sans temps mort avec un dénouement final abracadabrantesque. Seulement, quelques tournants de phrases gâchent un petit peu le plaisir, mais l'ensemble a au moins le mérite de ne pas se prendre au sérieux. Ne faut pas non plus s'en étonner, le genre veut aussi ça, et Nicolas Millier écrit aussi dans la presse satirique. Beaucoup moins drôle est Les Folles de Morzine qui, comme son titre l'indique, s'intéresse aux possédés de Morzine. Pendant environ 13 ans, de 1857 à 1870, plusieurs dizaines de femmes de Morzine, se disant possédées par des diables, furent prises de convulsions, d'hallucinations et de crises de somnambulisme. Le docteur Augustin Constant, inspecteur général des asiles et un des médecins qui examinèrent les malades, qualifia ces faits d'épidémie d'hystérodémonopathie. La psychiatrie contemporaine pourrait qualifier ces crises aujourd'hui de d'hystérie de conversion. Voilà, ça c'était un petit peu pour le contexte historique. On revient au roman de Gabriel Bender, qui raconte l'histoire de Victorine, une jeune documentariste qui souhaite réaliser un film sur cet épisode de l'histoire de France, avec cette fois un point de vue féministe. Le producteur lui impose un caméraman qu'elle connaît bien, Bruno, un ancien amant qui l'a jeté comme une malpropre. Victorine ne sait pas alors dans quoi elle s'engage, cet homme qu'elle a tant aimé ayant bien changé. Gabriel Bender, l'auteur qui a inauguré la collection Gore des Alpes avec, souvenez-vous, La chienne du Saint Bernard, un titre qui annonçait bien la couleur question sexe et horreur. Cette fois, il s'est un peu calmé pour narrer la difficile production de ce documentaire. Par le biais de son personnage principal, il relate les événements qui ont secoué la petite ville de Morzine au XIXe siècle, durant des flashbacks. Il prend le temps d'installer ses personnages sans offrir une enfilade de scènes gore. Elle s'avère même plutôt rare, mais par contre c'est quand même bien craspec. On retrouve dans Les Folles de Morzine les thématiques déjà présentes dans La chaîne du Saint-Bernard, un certain anticléricalisme ainsi qu'une certaine tendance à mettre en scène des rapports avec les animaux. Sauf que cette fois, Gabriel Bender prend une toute autre direction que celle du gore rigolo et punk. Cette fois, il s'attaque au virilisme en proposant une histoire beaucoup plus sombre et un peu plus complexe que son précédent roman de la collection, et surtout bien plus malsain et inconfortable dans ce qu'il raconte. Oui, l'auteur signe un roman féministe qui dégomme quelques clichés et énonce des évidences qui ne le sont pourtant pas pour tout le monde si on écoute certains écrivains qui se prennent pour des hommes politiques. Dans cette salve, les deux romans abordent des thèmes hautement d'actualité, mais chacun dans une tonalité différente, l'un en se marrant, l'autre de façon un peu plus radicale. Si vous voulez en savoir plus sur la collection Gore des Alpes et éventuellement commander les livres qu'on a chroniqués jusqu'à maintenant, je rappelle qu'ils sont tous disponibles via le site goredesalpes.ch.
Thomas, je crois que tu voulais parler d'un essayiste qui se prenait pour un écrivain. Enfin bon, je dis ça comme ça, ou d'un éditorialiste qui se prenait pour un essayiste. Je ne sais plus trop vraiment de qui tu parles. Mais par contre, je voulais rappeler aussi que les livres de la collection Carnage, puisqu'on fait un peu de promo là, mon ami Thomas, sont disponibles, les livres de la collection Carnage, dans la boutique des films de la Gorgone. Et oui, on ne le dit pas assez. Beaucoup des films dont on parle et des livres dont on parle dans cette émission sont disponibles dans notre librairie en ligne, lesfilmsdelagorgone.fr. Je vais vous parler de Paradise Island de Dominique Legrand, qui est sorti chez Moisson Noir. Alors, il est sorti au premier semestre 2021, mais l'actualité était très chargée, donc on l'a gardé un peu sous le coude. Et c'est simple, l'histoire est simple, hein, c'est la famille Blake qui va s'installer sur une île paradisiaque, un ghetto pour riches, parce qu'ils sont très riches. Hein, voilà, lui c'est un parangon de comment dire, il pourrait être un parangon de la Silicon Valley. Voilà, c'est quelqu'un qui est concepteur de logiciels, qui est né dans l'argent, qui a beaucoup d'argent, qui vit avec une traductrice de renom, enfin voilà, qui a une vie merveilleuse avec un enfant merveilleux. C'est un peu comme la famille de Parasite. Voilà, ils ont une vie merveilleuse, voilà, avec un enfant brillant. Enfin, tout le monde est brillant. Et puis, ils décident d'aller s'installer sur cette île un peu particulière dont ils se font vanter les mérites par un agent immobilier. Et c'est vrai qu'au début, ils arrivent là-bas et c'est assez merveilleux. Ils arrivent avec leur fils de 11 ans dans une somptueuse villa. Et puis, progressivement, les insulaires vont voir le bonheur qui leur tendait les bras se transformer en cauchemar, en véritable cauchemar. Alors, Dominique Legrand, fidèle à son style, fait de phrases courtes, d'une écriture assez sèche et captivante, s'aventure sur le terrain du thriller horrifique à travers ce livre qui est une véritable destruction de la cellule familiale, mais aussi de l'humanité tout entière, hein, si on extrapole un peu le bouquin. Et Paradise Island n'est en rien d'autre, en fait, qu'une métaphore de notre planète malmenée par la main de l'homme. Hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer, à vous, auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, que la situation environnementale dans laquelle nous vivons actuellement n'est pas des plus enviables. Voilà. Là, c'est quand même vachement ennuyeux. Si même la bourgeoisie ne peut survivre aux dégâts de l'homme sur la nature, c'est que vraiment tout fout le camp. Alors, si même le pognon ne peut pas vous sauver, là, non, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est ce qui se passe dans le livre de Dominique Legrand, qui interroge nos doutes, évidemment, qui interroge aussi nos fantasmes. Hein. On sent que l'auteur aime bien Brian De Palma, hein, dans une œuvre qui confronte un homme au pire des cauchemars, hein, et à savoir sa propre bestialité. Hein, ou tout du moins la bestialité de l'espèce humaine. Mais de tout cela, je vous propose d'en causer avec l'auteur de l'ouvrage, Dominique Legrand en personne. Hein, Dominique Legrand, donc l'auteur de Paradise Island, livre disponible chez Moisson Noir. Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée. Bonjour Dominique Legrand.
Bonjour Jérôme.
Alors aujourd'hui Dominique, tu viens dans notre émission pour nous parler de Paradise Island, qui est un livre qui raconte l'histoire de Simon Blake, qui est héritier d'une dynastie, milliardaire, concepteur de logiciels, qui avec sa femme traductrice de renom et son fils de 11 ans emménage dans ce que je vais appeler un ghetto de riches, Paradise Island. Avant d'aller plus loin, doit-on voir dans ce personnage de Simon Blake une tentative de ta part de brocarder un peu tous ces milliardaires du net, de l'informatique, tels Zuckerberg et compagnie?
Ah, je n'irai pas jusque-là. Alors effectivement, c'est une tentation. Hein. C'est dans l'air du temps, donc on peut y penser. Et en fait, l'origine du roman est à la limite presque plus naturelle et plus simple que ça, et remonte à quelques années, où avec mon épouse on emménageait dans un lotissement et en fait c'était assez amusant parce que l'agent immobilière qui nous présentait le studio, enfin l'appartement où on allait, nous montrait toute la résidence en mettant en valeur en fait toutes les choses intéressantes, fabuleuses que pouvait mettre à notre disposition toute la résidence. Et voilà, alors c'était pas du tout une résidence du type de ghetto de Paradise Island. C'était pas du tout un ghetto de riches. Mais je me suis amusé à pousser un petit peu plus le curseur et en me disant voilà, qu'est-ce qui se passerait si effectivement des gens très riches étaient pris sous la coupe d'un agent immobilier qui leur présenterait d'une façon fabuleuse un endroit paradisiaque, en fait. Voilà. En fait, l'idée, l'origine est née de ça.
Et bon, évidemment, cette île paradisiaque, elle va se révéler être un véritable cauchemar. Hein. C'est comment dire, on peut y voir, moi, je trouve, une parabole aussi sur notre monde, hein, dont l'écosystème est menacé par la main de l'homme. Je suppose que toi qui as défendu la cause animale dans 8865, tu es très préoccupé par la situation écologique, environnementale.
Oui, 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 bien sûr, effectivement, ce Paradise Island, c'est aussi une sorte de bulle à l'écart du monde, qui en fait ne respecte pas, on pourrait dire, la logique de la planète aujourd'hui, hein, qui vit un petit peu à l'écart. Et effectivement, le retour de bâton va être rude. Oui, bien sûr, oui, je suis tout à fait sensible à ça. Maintenant, on ne peut plus faire autrement. Que de voir ce qui se passe à l'extérieur, que de voir l'état de notre planète, qui est quand même très très en danger. Et ce serait difficile, voire irresponsable, aujourd'hui, de dire ouais, on continue, on va dans le mur, mais on continue, on fait comme si c'était rien passé. Parce que de toute façon, on a déjà franchi la ligne permise. Donc oui, bien sûr, c'est effectivement un reflet de... c'est une situation poussée à l'extrême, mais on peut voir le reflet de cette situation, bien sûr.
Et d'ailleurs, le personnage de Blake, dans cette situation poussée à l'extrême, alors à l'image de beaucoup de grands capitalistes ou de grands patrons qui se drapent dans des discours progressistes, va se révéler en fin de compte. Alors, je ne sais pas s'il va se révéler à lui-même, il connaissait ce potentiel en lui, mais être un incroyable prédateur. Il est particulièrement combatif et résistant, en fait, comme personnage.
Oui. Alors, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était de voir que, bon, c'est pas nouveau, mais dans une situation où on se retrouve finalement en danger, on devient, on reprend des instincts animaux, des instincts de prédateurs, on va essayer de défendre finalement son bien, on va essayer de défendre sa propriété, même si c'est une propriété pour riches, on va quand même la défendre bec et ongles contre tous les dangers potentiels. Et bon, il y a beaucoup de films qui surfent sur cette vague. Hein. Je pense par exemple à toute cette série de films qui s'appelle American Nightmare, où le premier était d'ailleurs très original, de voir que dans un îlot, dans un ghetto justement pour riches et pour personnes fortunées, eh bien, voilà, d'un seul coup... On reprend un instinct animal pour défendre, avec la violence d'ailleurs, alors qu'on n'a pas du tout au départ un comportement violent. Mais finalement, le naturel va revenir, on va défendre son précaré, bien sûr. Ouais.
Et puis aussi les questions de la pulsion, parce qu'il y a quelque chose de pulsionnel dans ce personnage. On a l'impression qu'au départ, il est un peu réveillé par ce couple qu'il voit faire l'amour, tout ça, qui habite à côté de chez lui, qui va réveiller en lui des pulsions. Et petit à petit, tout ce qui va se passer dans son environnement va réveiller en lui des pulsions. Enfin, c'est vraiment un livre qui, je trouve, est sous le signe de la pulsion. C'est vraiment quelque chose de particulier dans cet ouvrage.
C'est tout à fait ce que je voulais, en fait, hein. Je voulais pas forcément un thriller qui soit carré avec une résolution bien précise. Voilà, j'aime bien justement ce genre de thriller ce genre de roman qui sont entre les deux, qui appartiennent à plusieurs genres, qui sont pas forcément des thrillers en bonne et due forme, mais qui navigue justement dans plusieurs zones. Et effectivement, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était c'est pour ça que le roman est aussi raconté à la première personne du singulier, c'était de voir ce qui se passait, toute l'histoire, depuis son point de vue à lui, depuis ce personnage-là, qui d'un seul coup est transformé par cette île. Oui, il y a quelque chose dans l'île qui fait que les comportements changent. Bien sûr, il y a la pulsion sexuelle au départ, et puis après la pulsion de violence. Et bien sûr, tout l'entourage, tout l'environnement va être modifié par ce changement de comportement humain, bien sûr.
C'est presque très Cronenberg, tout ça, en fait.
Un petit peu, oui, bien sûr, on peut penser par exemple à Frisson, absolument à Parasite Murders. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'organique, oui, bien sûr.
Vous écoutez Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée.
Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, moi c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison.
Quelle est ta méthode de travail? Parce que là, c'est quand même un bouquin assez conséquent. Hein. Il y a un nombre de pages assez conséquent. On est sur les 500 pages. Comment tu travailles? Est-ce que d'abord, tu as un premier jet qui va être très volumineux, que tu vas réduire, ou vraiment, est-ce que tu as un plan de travail et tu t'y tiens? Est-ce que tu écris tout d'un seul jet? Enfin, ça m'intéresserait de savoir comment tu travailles. Parce qu'au bout du compte, il y a toujours cette grande efficacité qui fait que tes livres, quand on les commence, on veut les finir, quoi. On a vraiment envie de savoir où on va en venir, quoi. Et pourtant, là, dans celui-là, on se devine un peu où on va en venir. Mais malgré tout, on reste accroché par le style, par la façon d'écrire.
Alors, en fait, la méthode, est à la fois différente et à la fois toujours un peu la même. C'est-à-dire que dès que j'ai un sujet en tête, il faut quand même que je fasse un plan. Même si le plan ne va pas du début forcément jusqu'à la fin, mais j'ai quand même une vague idée de l'histoire. Au départ, c'est quand même l'histoire. Après, c'est la construction des personnages. Donc, je passe quand même pas mal de temps à élaborer un plan de l'histoire, même s'il n'est pas tout à fait respecté dans les grandes lignes. Et puis, bien sûr, à construire les personnages. Il faut quand même que les personnages soient vraiment le plus crédible possible. Et ça, c'est important, que les personnages existent réellement. Donc j'ai passé pas mal de temps à construire le personnage de Simon Blake, par exemple, et puis de cette famille, et après, bon, effectivement, les personnages extérieurs. Et alors, une fois que c'est lancé, une fois que la machine est lancée, bon, on a un canevas, en fait, voilà, j'ai un canevas, j'ai un plan, si on peut dire, un peu comme les plans de dissertation au lycée, et puis je commence le roman, bon, je sais comment ça va commencer, j'ai le, on peut dire, la partie du milieu, le développement, et en général, j'ai la fin, parce que je trouve que c'est assez compliqué de commencer un roman sans avoir une idée de la fin. Après, bien sûr, après ça peut dévier. Après, on peut avoir des digressions, parfois qu'on supprime d'ailleurs après. Ça m'est arrivé d'écrire, par exemple, 10 pages, et puis de relire les pages après et me dire, bah non, finalement, ça rentre pas dans l'histoire. Ou là, je me suis fait plaisir en faisant une digression, mais ça vient un peu plomber le rythme de l'histoire. Donc, je pense qu'il faut toujours, en fait, maintenir le rythme. Voilà, quel que soit d'ailleurs le. C'est vraiment une question de rythme, quel que soit le roman, hein, d'ailleurs. Hein. Par exemple, sur le précédent, bon, voilà, je savais que ce serait un roman beaucoup plus court. Je savais qu'il s'adresserait à des adolescents et pas des adultes. Donc, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner, même si on peut se permettre des choses. On ne peut pas aller forcément trop loin, par exemple, dans les descriptions. Par exemple, sur le précédent, bon, effectivement, je parle de maltraitance animale. Il fallait trouver le bon dosage, si on peut dire, pour essayer de décrire cette maltraitance, cette cruauté envers les animaux, et en même temps faire que ce soit un roman lisible qui ne repousse pas le lecteur, surtout un jeune lecteur. Sinon, le message passait complètement à côté. Là, c'est un roman clairement pour adultes, donc je pouvais aller beaucoup plus loin dans les descriptions, que ce soit les scènes d'amour, bon, qui sont un petit peu poussées, et puis les scènes de violence. Après, il faut trouver en fait le bon dosage, il faut trouver le bon rythme, et puis surtout, faut vraiment maintenir ce désir d'écriture pratiquement tous les jours. Voilà, une fois qu'on est lancé, en fait, mais ça se fait naturellement, hein, quand on a commencé à écrire un roman, on a vraiment envie de continuer. On sait que c'est un travail de longue haleine, mais on a surtout envie d'aller jusqu'au bout, quoi.
Donc, au final, tu pars pas de, par exemple, de 900 pages pour aboutir à 400. Tu as déjà quelque chose de très structuré, en fait, quand ton livre est fini.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je sais au départ que le roman sera un gros roman. Il aura le nombre de pages en fait qui correspond au sujet que j'ai en tête et à l'histoire que j'ai en tête. Et en fait, ce volume, si on peut dire, est inhérent à chaque roman. Je savais que, par exemple, que 8865 ne serait pas un très très gros roman. Je savais que celui-ci serait plus important. Comme le prochain sera sans doute encore plus important en volume que Paradise Island. Mais un autre après arrivera après qui sera moins important. Et voilà, parce qu'en fait ça peut créer des digressions et des longueurs. Et justement, il faut pas de longueur. Même dans un petit roman, voilà, il faut vraiment trouver le bon dosage et le bon calibre à chaque roman. Sans qu'il n'y ait de longueur, en fait, que ce soit un pavé ou même une nouvelle. Hein. Ça, c'est important, justement, d'enlever tout ce qui peut être superflu. Quoi.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house.
up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Vous écoutez Dominique Legrand, auteur de Paradise Island, paru chez Moisson Noir, au micro de Culture Prohibée.
Parle un peu de ton précédent ouvrage, 1865, qui est un ouvrage qui avait rencontré quand même un certain écho. Comment aujourd'hui, avec un peu de recul, tu vois un peu l'aventure de ce livre, qui était un livre un peu particulier dans ton parcours
En fait, c'est arrivé. C'est un livre très très personnel dans le sens où. Moi j'ai commencé à réfléchir à la cause animale il y a quelques années, bien avant d'écrire 8865, et c'est arrivé comme ça, on va dire au fur et à mesure, en me documentant, en voyant des vidéos, en étant troublé, en étant interpellé, voire bouleversé par effectivement des choses que j'ai vues sur les animaux, et qui ont vraiment changé ma perception des relations entre l'homme et l'animal. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, voilà, ça ne peut pas rester comme ça, il faut que ça débouche sur un roman. Alors ça a été un petit peu compliqué dans le sens où il fallait trouver une bonne accroche, et je veux dire le bon animal. Et c'est pour ça que j'avais choisi une vache, parce que ce n'est pas forcément un animal très, auquel on penserait. Voilà, je voulais vraiment un animal d'élevage, en fait. Et là, c'est pareil. Ce qui m'a intéressé dans 8865, c'était de se faire télescoper, finalement, deux univers qui n'avaient absolument rien à voir. C'est-à-dire l'univers de la campagne, de l'élevage, des animaux, des bovins. Bon, et en même temps, l'univers de cette femme qui élève seule sa fille, qui est comédienne, qui vit à Paris. Donc, deux univers qui, normalement, ne devraient pas se rencontrer. Et c'est ça qui m'a... En fait, j'ai un peu transposé mes interrogations à moi, qui ne suis pas du tout quelqu'un de la campagne. Bon, j'ai déjà vu une vache et je sais à quoi ça ressemble, mais je ne vis pas du tout à la campagne. Et voilà, je n'ai pas grandi dans une ferme. Ouais, je sais un petit peu comment ça se passe, mais je ne vis pas du tout dans cet univers. Et finalement, j'ai un peu transposé mon inexpérience dans ce domaine, dans celui de ce personnage de comédienne.
Et les confrontations d'univers, d'ailleurs, qui a priori n'ont rien à faire ensemble, c'est aussi ce qui fait le sel de Paradise Island, en vérité, puisque ce milliardaire issu de la nette économie, on l'imagine pas en survivaliste. Voilà.
Oui, tout à fait. Bah, ça, c'était ce qui est vraiment intéressant. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce roman, c'était de prendre... effectivement un personnage qui est vraiment dans l'air du temps, fortuné, milliardaire, et issu d'une dynastie milliardaire. Bon, c'est pas un roi fainéant non plus, il travaille, c'est quelqu'un qui est très... c'est très méritant. Je veux dire qu'effectivement, il a une fortune colossale, mais on sent bien que cette dynastie des Blake, elle a fait fructifier grâce au travail, et puis à l'intelligence aussi. ils ont fait fructifier cette fortune. Il y a une femme aussi qui est très très méritante dans son travail et qui est très douée. Donc elle, bon, tout travail mérite de salaire, donc elle a effectivement un salaire à l'avenant. Et en même temps, ils ont des désirs de milliardaires. Bon, je pense que c'est un peu le propre de toute personne qui a beaucoup d'argent. Il arrive un moment où il veut toujours avoir plus. Bon. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que cette ligne, ils la franchissent. Ils hésitent d'ailleurs, hein. Ils hésitent à la franchir. Et puis, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'une fois sur l'île, c'était ce retour finalement à l'état sauvage, hein, vraiment à l'état, vraiment à l'instinct primaire. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, tous les codes vont tomber. C'est-à-dire que la fortune n'y fera rien, l'argent n'y fera rien. D'un seul coup, il s'agit de sauver sa peau et puis et de survivre dans un monde hostile.
Alors, dans cet ouvrage, dans les remerciements, tu cites J.G. Ballard, Stephen King, alors, influence littéraire évidente, mais moi je vois aussi du Brian De Palma à travers l'idée de la pulsion, un peu le voyeurisme, la sexualité. Je vois vraiment du Brian De Palma, toi qui as écrit sur De Palma, en plus un essai sur De Palma, je sens bien le fan de De Palma dans ce livre.
Oui, alors bon, c'est vrai que c'était pas ma référence première, mais c'est vrai qu'il est toujours un petit peu là en embuscade de Palma. Hein. C'est quand même quelqu'un qui va chercher les pulsions extrêmes chez les individus. Et c'est vrai que bon. Alors, on peut penser à Cronenberg aussi, comme tu le disais tout à l'heure, parce que Cronenberg est quelqu'un qui fait une sorte de radiographie de l'être humain, surtout la radiographie intérieure de l'être humain, à la fois psychologique et physique. Mais effectivement, chez De Palma, il y a toujours cette fascination pour la violence, pour le fait que d'un seul coup, le seul moyen de pouvoir résoudre une situation va être la violence et la pulsion meurtrière. Tout à fait.
Écoute, on va arriver au bout de cet entretien. Il faut bien conclure l'émission. On va rappeler que Paradise Island est disponible chez Moisson Noir. Et puis, avant de se quitter, est-ce que tu pourrais brièvement nous présenter donc tes projets ? Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres livres sur le feu qui attendaient des parutions prochaines. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares de bon ?
Alors, il y a beaucoup de choses sur le feu. Déjà, il y a déjà la collaboration sur avec Prime Cut qui va arriver bientôt. Hein, je crois que c'est en octobre.
C'est cela même.
Et puis le même mois, donc en octobre, il y a un ouvrage collectif sur Roman Polanski qui sortira chez Gramez, à la fois dans une édition italienne et une version française, puisque Gramez est un éditeur italien, donc il sort ses bouquins dans ses livres dans ses deux versions. Beaucoup de livres de cinéma chez Gramez, et là ce sera un ouvrage collectif sur Polanski, et vraiment un truc assez pointu avec beaucoup d'intervenants. Alors j'ai eu la chance de pouvoir écrire la préface du livre. Et en même temps, j'ai écrit deux articles sur deux longs papiers sur deux films qui sont pas trop connus d'ailleurs de l'univers de Polanski, qui sont What, et puis son documentaire sur le Grand Prix de Monaco qui s'appelle Weekend of a Champion. Et alors ça sort au mois d'octobre. Normalement, l'année prochaine, je sors chez Complicité un livre, ce sera le premier livre en France sur Nicolas Roeg, le réalisateur anglais, dont la préface devrait être écrite normalement par Thierry Jousse. Alors, je dis toujours normalement, parce qu'il peut se passer des choses, mais bon, ça devrait se faire. Et puis, alors, pour la fin de l'année ou début 2023, je ne sais pas encore, chez un autre éditeur qui s'appelle Entremise Éditions, je devrais normalement sortir un livre sur Michael Douglas. J'ai une sorte de fascination depuis très très longtemps pour ce comédien, et surtout pour les rapports finalement entre les rôles qu'interprète Michael Douglas et ce que nous renvoie l'Amérique. Je trouve ça assez fascinant, ce long parcours, et puis ce parcours assez intéressant du rapport entre Douglas fils et Douglas père, des deux filmographies, son rôle de producteur, et puis effectivement son évolution, comme comédien, et puis tous ces rôles très politiquement incorrects hein, qu'il a su conduire comme ça, dont il est un peu seul d'ailleurs dans le paysage américain. Il y a beaucoup de rôles, je pense à par exemple Chute libre, qui est un rôle absolument extrême que peu de comédiens, à mon avis, auraient accepté. Et voilà, c'est tout ça qui m'a passionné, qui me passionne depuis très longtemps chez Michael Douglas. Voilà, donc il y a ce livre-là, mais ça, c'est des livres de cinéma. Et puis là, je suis en train de retravailler un énorme livre, un énorme roman, qui ne sera pas un thriller, mais plutôt un roman dramatique, assez complexe. Alors l'histoire est simple, et en même temps, il faut la complexifier. Et normalement, je devrais le terminer pour l'année prochaine, dans le courant 2022, pour pouvoir le présenter à des éditeurs. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net, et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Flowers in the vase that you bought today.